Trois petites choses avant de commencer. Vous savez que je fais toujours des dessins avec les prédications. Aucune prétention artistique, mais prétention spirituelle. C'est-à-dire que ces dessins, ils ont une portée spirituelle. Je les ai mis dehors, enfin à l'entrée là. Prenez-les et méditez-les. Hein, je vous les offre. Et méditez-les, surtout ceux qui ont des versets bibliques. Voilà. Ce que je vais expliquer là, sur la prière sacerdotale de Jésus quand il prie pour son Église, hein, c'est qu'une première partie. L'autre partie aura lieu dimanche prochain. Donc, ne me dites pas qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, parce que je les dirai peut-être dimanche prochain. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi des méditations pour vous, et puis des explications aussi pour vous, si vous ne comprenez pas bien le texte. Et prenez-les, c'est à l'entrée. Voilà, pour celles et celles et ceux qui étaient présents donc le 5 juin lors de la première partie de la prédication sur la prière sacerdotale de Jean 17, bah, je n'ai pas besoin de rappeler que c'était la prière la plus longue que Jésus ait prononcée dans la Bible, parce qu'elle couvre 26 versets, c'est énorme. Et puis, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, bah, je rappellerai que cette prière est traditionnellement divisée en trois parties. Dans la première, Jésus y prie pour lui-même. Dans la seconde, Jésus prie le Père pour ses disciples. Et puis dans la troisième que nous allons voir à présent, eh bien Jésus prie pour son Église. Alors à l'aube de sa mort sur la croix, Jésus prie le Père pour toutes celles et ceux, c'est-à-dire vous et moi, qui croiront en sa mort salvatrice, c'est-à-dire qui sauve, à sa résurrection glorieuse et qui constitueront à l'avenir l'Église du Christ. Quand Jésus prie le Père pour son Église à venir, il prie d'abord et en priorité pour son unité. C'est l'unité qu'on va voir ce matin. Jean 17, verset 21a, « Je te demande, Père, qu'ils soient tous un. » Et dans cet objectif, il va prendre pour modèle l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Jean 17, verset 21b, « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. » Vous le voyez, pour Jésus, l'unité, c'est l'interaction qui existe entre le Père et le Fils. C'est la réaction réciproque qui fait que chacun fait partie de l'autre. Cette unité que décrit Jésus est avant tout une unité structurelle, de structure. Vous voyez ? Cette relation unique entre le Père et le Fils trouve son origine dans l'existence même de Dieu. Le Père est dans son Fils, qui n'existe pas l'un sans l'autre, tout en étant pourtant deux personnes différentes et distinctes. Des fois, c'est difficile à comprendre. Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. » C'est cette relation unique que nous allons tenter d'expliquer et de comprendre afin de pouvoir pratiquer dans l'Église cette unité spirituelle demandée par Jésus. Alors vous l'avez certainement remarqué, ce n'est pas le Père qui prend modèle sur le Fils, mais c'est bien le Fils qui reproduit en toute chose ce qu'il voit faire au Père. Alors cela manifeste la prédominance et surtout l'autorité de Dieu le Père sur Dieu le Fils. Même si la Bible, et c'est ça qui est curieux, les déclare tous les deux égaux. Hein, Jean 5, 18, Jésus appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. En préparant cette prédication, je me suis profondément interrogé sur la vraie, sur la véritable relation qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils, pour que leur union soit aussi forte, aussi puissante, aussi réussie. Alors, disons-le clairement, en aucun cas, il ne s'agit d'une unité humaine, vous savez, un accord de façade entre deux personnes, mais bien d'une unité profonde et spirituelle. Et frères et sœurs, là, je vous demande d'être très très attentifs pour bien comprendre ce qu'explique la Bible et qui fait le ciment de cette unité. Ça, c'est important. Tout d'abord, voilà ce que dit expressément la Bible. Psaume 92. « Avant que les montagnes soient nées et que tu es créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Voilà, Dieu, il est éternel. Ce qui caractérise la divinité, c'est son éternité. Dieu n'a ni commencement, ni fin de vie. Donc Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit n'ont pas été créés, mais existent de toute éternité. La question essentielle à se poser, c'est de savoir comment trois personnes peuvent cohabiter l'une dans l'autre de toute éternité, tout en étant indépendantes l'une de l'autre. Quand je me suis posé la question, la réflexion a été compliquée pour moi. Mais puisque nous avons un Dieu vivant qui prend soin de ses enfants, bah pourquoi pas lui demander au Seigneur qu'il nous explique ? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé au Seigneur qu'il veuille bien prendre la peine de me l'expliquer simplement. Et je vous livre ce matin ce que j'ai compris à travers un exemple que j'ai vu dans mon propre jardin. Alors je sais que Edith aime bien la nature. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai planté un prunier dans mon jardin. Or, il y a quelques années, j'ai eu l'agréable surprise de voir sortir de terre, à environ 3 mètres de l'autre, un petit prunier, un arbrisseau, que je n'avais pas planté et qui était en tout point semblable à celui que j'avais mis en terre autrefois. Bonne surprise. Alors, que s'est-il passé ? En réalité, il s'agit de quelque chose de tout à fait naturel qu'on appelle, me semble-t-il, le marcottage. De la souche originelle du pied de l'arbre est sorti un jet souterrain qui a donné un arbrisseau tout à fait semblable à l'arbre d'origine. Ce prunier fils est sorti, on dira, du prunier père. Il était déjà présent en lui. Lorsqu'il est sorti de terre, le prunier fils n'est pas indépendant du prunier père, car sa sève coule en lui et son ADN est tout à fait le même que celui du père. Frères et sœurs, est-ce que vous entrevoyez à travers cette expérience champêtre la relation unitaire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Alors vous l'avez compris, l'arbre principal symbolise Dieu le Père. En lui préexiste le jet souterrain qui est le Saint-Esprit, mais aussi l'arbrisseau qui symbolise Jésus, le Fils de Dieu. Les trois personnes interdépendantes mais distinctes, avec des rôles différents, ont pourtant un seul et unique but, c'est exercer la justice dans l'amour. C'est ce que dit Ésaïe 45:21. « Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Voilà, il n'y a qu'un. Un seul Dieu, mais trois personnes. Cette belle image du prunier est-elle réellement biblique ? Alors, vous savez que les chrétiens de Béret, vous connaissez les chrétiens de Béret, je pense, vous qui avez lu la Bible, dans Actes 17, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était vrai. On ne peut pas faire moins que eux. Aussi, je vous invite à vérifier si ce que je vous ai dit est conforme à la vérité, à la parole de Dieu. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 et verset 6, on peut lire ceci. « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. » Un seul Dieu de qui viennent toutes choses. Dieu le Père est bien l'arbre principal duquel tout vient, duquel tout découle. D'autre part, à propos du Saint-Esprit, Jean 14, 26 dit « Le Saint-Esprit que le Père enverra ». L'un des rôles du Saint-Esprit est d'être envoyé par le Père, comme le jet souterrain du prunier, mais un autre rôle du Saint-Esprit est de donner la vie, et en particulier de donner la vie à Jésus. Matthieu 1, 20, « L'enfant que Marie porte vient de l'Esprit-Saint ». Enfin, dans Ésaïe 53, il est fait allusion à l'arbrisseau nouveau, versets 1 et 2, Jésus a grandi devant l'Éternel comme une jeune pousse, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et vous le voyez clairement, bibliquement, on ne parle pas de trois personnes divines venant d'horizons différentes. Non, nous avons au contraire trois personnes divines qui viennent d'une seule et même souche, Dieu le Père. Comme tout part de lui et dépend de lui, il est absolument normal qu'on l'appelle Dieu le Père. Mais qu'est-ce qui peut nous faire penser que Christ préexiste en Dieu le Père, qu'il était dès l'origine en lui? Dans le bel évangile de Jean au chapitre 1 et verset 18, on peut lire ceci. « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Vous voyez que cette intimité dans la relation Père-Fils, cette unité puissante, découle de la situation du Fils dans le Père. La place du Fils, c'est d'être dans le cœur du Père. Il préexiste en lui, et quand le Fils sort du Père, par la puissance du Saint-Esprit, il sort avec l'ADN du Père, qui lui transmet son patrimoine génétique spirituel. Le Fils est donc bien dans le Père, tout comme le Père est bien dans le Fils. Jean 14, 8, s'adressant à Philippe, Jésus lui dit « Tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Cette présence mutuelle l'un dans l'autre fait de la relation Père-Fils une unité structurelle et spirituelle parfaite. Parfaite. Et lorsqu'il sort du Père, dit la Bible, le Fils n'est pas créé, mais il est engendré. Ce qui est logique, car la création, eh bien, sous-entendrait un commencement, un début, et là il ne serait pas éternel. Frères, sœurs, voici les quatre versets bibliques qui confirment que Jésus est bien sorti du Père. Jean 8, 42, « Je suis issu de Dieu, dit Jésus aux pharisiens, et c'est de lui que je viens. » Jean 17, 8, « Ils ont connu, Père, que je suis sorti de toi. » Et puis, dans le psaume 2, verset 7, « L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » L'unité divine, celle que Jésus prend comme modèle pour son Église et qu'il demande dans la prière au Père, est cette unité spirituelle et structurelle que nous venons de décrire, à savoir le Fils dans le Père et le Père dans le Fils. Mais vous savez qu'il existe aussi un autre lien spirituel profond qui unit le Père au Fils et le Fils au Père, et ce lien, c'est l'amour. C'est un lien puissant. Jean 3, 35, le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toute chose. Voilà. Frères, sœurs, ce seront ces deux notions, structure et amour, que nous retrouverons dans l'unité de l'Église. En réalité, ce que Jésus demande au Père pour son Église est une unité à deux branches. Une unité verticale entre Dieu et le croyant, et puis une unité horizontale entre les croyants. L'unité spirituelle de l'Église va s'articuler autour de ces deux branches qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. C'est pas possible. Donc, on va déjà voir l'unité verticale qui existe entre Dieu et le chrétien et le croyant. Elle peut se résumer par cette double pensée, retenez-la bien, Christ en nous et nous en Christ. Vous voyez, Christ en nous et nous en lui. Ensemble, nous ne formons plus qu'un avec Dieu. Et puis la deuxième, Dieu m'aime, alors j'aime Dieu. Frères, sœurs, la Bible nous rappelle cette vérité, c'est uniquement en passant par Christ que nous avons accès au Père. Il n'y a pas d'autre possibilité. Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Frères, sœurs, vous le savez, pour entrer dans l'unité verticale avec Dieu, il faut passer par le chemin qu'est Jésus-Christ. Alors prendre le chemin qu'est Jésus, c'est naturellement s'identifier à lui. Premièrement, tout d'abord, en le reconnaissant comme Fils de Dieu. Jean 11, 27. Vous savez, Marthe de Béthanie dit à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » C'est cette reconnaissance de Jésus en tant que Fils de Dieu agneau de Dieu venant prendre sur lui à la croix la totalité des péchés du monde, que nous entrons sur le chemin de Jésus, que nous naissons à une vie spirituelle nouvelle et que nous sommes sauvés. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas plus compliqué que ça. Deuxièmement, en s'identifiant totalement à Jésus par sa mort et sa résurrection, nous devenons un avec lui. Romains 6, 5, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Alors bien sûr, ce passage n'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous avez des gens qui se crucifient pour vouloir passer par Jésus, c'est pas ça. Si nous mourons avec Jésus, c'est dans un sens spirituel. Nous étions autrefois engagés dans le péché, aveugles à la spiritualité, ennemis de Dieu, mais en choisissant de reconnaître Jésus, eh bien nous acceptions de crucifier notre nature pécheresse avec lui. Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous avez crucifié votre nature pécheresse ? Êtes-vous mort avec le Christ ? Parce que c'est là que commence l'unité dans l'Église. Spirituellement, notre vieille nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. Nous ne sommes donc plus esclaves du péché qui nous rendait odieux aux yeux de Dieu, mais notre identification avec Christ ne s'arrête pas là. Si nous sommes morts avec lui au péché, nous allons aussi ressusciter spirituellement avec lui à une vie nouvelle. Par cette mort et cette résurrection, par cette vie nouvelle en Christ, nous ne sommes plus qu'un, unis à Christ. Sommes-nous ressuscités avec Christ ? Là aussi, c'est important de se poser ces questions-là. Se poser vraiment ces questions de base, mais essentielles. Suis-je mort avec Christ ? Suis-je ressuscité avec Christ ? Frères et sœurs, cette identification avec Christ nous unit puissamment à lui. Romains 6, 5. Par la conformité à sa mort et la conformité à sa résurrection, c'est ce qu'on vient de voir, nous sommes en effet devenus une seule et même plante avec lui. Voilà l'unité. Une seule et même plante avec Christ. Vous le voyez, par la nouvelle naissance, nous sommes un avec Christ. Nous sommes structurellement en Christ. C'est la première partie de l'unité verticale, nous en Christ. En reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu, nous lui ouvrons grand notre cœur. Et nous recevons par là même le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit du Christ qui marque la présence du Christ en nous et qui est la deuxième partie de l'unité verticale. Galates 2, 20, en effet, dit Paul, « J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui ? C'est Christ qui vit en moi. » Et qui c'est Christ qui vit en moi ? Ben comme vous le voyez, la boucle est bouclée, « Moi en Christ et Christ en moi », c'est l'unité structurelle demandée et voulue par Jésus. Et quand Christ vit en moi, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Cette unité verticale entre Dieu et le croyant trouve son point culminant, son point d'orgue, dans le lien d'amour réciproque qui s'installe entre Dieu et le chrétien né de nouveau. 1 Jean 4, 19, « Pour nous, écoutez bien ça, pour nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. » Ce n'est pas nous qui avons été chercher Dieu, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier en Jésus-Christ. Et c'est parce que Dieu a offert son Fils unique en sacrifice à la croix pour nos péchés qu'il a initié l'amour dans nos cœurs et ouvert une reconnaissance éternelle et sans borne pour Jésus-Christ. Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. » Amen. Cette unité verticale entre Dieu et le croyant, lorsqu'elle est réalisée, eh bien, permet aux chrétiens nés de nouveau d'ouvrir une unité horizontale qui est une unité purement, encore là, spirituelle, et qui ne peut se pratiquer qu'entre personnes qui ont l'esprit. Voilà ce que Paul nous rappelle. Romains 8, 9. Que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Vous le voyez, on ne peut pas espérer une unité spirituelle avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Christ, qui n'est pas un chrétien né de nouveau. C'est compliqué, puisqu'il n'a pas l'esprit spirituellement, donc spirituellement ça veut dire esprit. Frères, sœurs, soyons conscients qu'une bonne unité horizontale ne peut aussi exister que si nous pratiquons une bonne unité verticale avec Dieu. Ça, ça doit être clair. Dans l'Église, l'unité horizontale entre les chrétiens nés de nouveau est surtout basée sur le lien d'amour qui existe entre les frères et sœurs. Et ça, on l'a rappelé tout à l'heure. Hein. Ce lien d'amour s'appuie sur le second commandement divin, Jacques 2,8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Frères et sœurs, lorsque dans l'Église on pratique l'amour du prochain, on œuvre pour l'unité horizontale, parce qu'aimer, c'est s'approcher de l'autre, donner de soi-même et lui faire du bien. Alors, l'unité horizontale, elle peut se résumer par cette double pensée. Jésus m'a aimé pour que j'aime les autres. J'aime les autres aussi comme je m'aime moi-même et me sens aimé par le Christ. Alors vous le savez, l'amour du prochain est très 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 difficile à pratiquer pour l'être humain qui est avant tout égocentrique, tourné vers lui-même et naturellement égoïste. Et là je parle pour moi en premier, hein. En réalité, on ne peut aimer le prochain de l'amour du Christ que parce que Christ vit en nous. Parce que de moi-même, j'arrive pas à aimer les autres. De cet amour du Christ. Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, ça ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit qui l'a répandu dans nos cœurs. Frères, sœurs, c'est uniquement grâce à l'amour reçu dans notre relation verticale avec Dieu que nous pouvons vraiment aimer les autres. Frères, sœurs, voyez, et soyez-en certains, on ne peut vraiment bien donner que ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu, c'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'avez-vous reçu ? Avez-vous reçu cet amour que Dieu nous a donné en Jésus-Christ ? Le commandement divin est en réalité un double commandement. Le premier, tu aimeras ton prochain. Et puis le deuxième, tu l'aimeras comme tu t'aimes toi-même. Alors vous l'avez sans doute remarqué, ce splendide commandement de Dieu s'adresse en priorité à chacun de nous et non au prochain. Hein, on ne dit pas, c'est marqué, tu aimeras ton prochain. Le pronom personnel « tu » désigne le chrétien ou la chrétienne, celles et ceux qui vivent dans l'Église du Christ. Parfois, je le dis moi-même, à tort, d'autres fois j'entends cette phrase terrible, l'Église manque d'amour. C'est vrai, quand on est déçu, on dit l'Église manque d'amour. Alors, est-ce que vraiment l'Église manque d'amour? Mais qui est l'Église? C'est qui l'Église? Et c'est ça la question qu'on peut se poser. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est l'Église dont Christ est le chef. Voilà, l'Église, c'est pas les autres, c'est nous. Nulle part il est écrit « Laissez-vous aimer par les autres ». Venez à l'Église pour recevoir l'amour du prochain. Des fois, c'est comme ça qu'on nous attend. On voudrait bien être aimé par les autres, on voudrait bien recevoir l'amour des autres. Mais ce n'est pas ça le commandement. Non, frères et sœurs, Dieu nous désigne chacune, chacun comme acteur et non comme personne assistée, comme unique responsable de pratiquer l'amour fraternel qu'il nous a offert en Jésus-Christ et qui fait le ciment de l'unité. Avez-vous cette vision que l'Église, c'est nous tous? Est-ce que vous avez cette vision? On peut avoir reçu l'amour du Christ et ne pas le répandre autour de nous, le garder égoïstement pour soi. D'ailleurs, écoutez ce que dit l'apôtre Jean. 1 Jean 4, 11. « Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » C'est un ordre. Avant de poursuivre, 1 Jean 3, 13. « Que notre amour ne se limite pas par des discours et de belles paroles, mais qu'elle se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Voilà, pas de paroles, mais des actes. Frères, sœurs, chacun de nous, alors pas seulement le pasteur, pas seulement les anciens, pas seulement les responsables, sont appelés à œuvrer dans l'Église par amour pour le prochain. Et puis deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous dit que l'être humain, il s'aime, qu'il porte de l'intérêt et prend soin de sa propre personne. Vous voulez un exemple ? Oui. Vous allez prendre une photo ici, du groupe. Quelle est la première personne que vous allez chercher sur la photo ? Ben, nous. Bon, en tout cas, c'est ce que je regarde en premier. Où je suis, est-ce que je suis bien ou pas ? Voilà. Les personnes qui disent « oui, mais moi je m'aime pas », etc., on s'aime. Voilà. Christ a aimé les hommes plus que lui-même, car il a sacrifié sa vie pour des personnes qui l'ont pour la plupart rejeté. Dieu, lui, ne nous a pas demandé d'en faire autant, d'aimer les autres plus que nous-mêmes. Il nous demande d'aimer l'autre comme on s'aime soi-même. C'est déjà pas mal. « Ce que je ferai volontiers pour moi, je le ferai pour lui. » Ce que Dieu demande, c'est de se voir dans le prochain. « Je l'aime parce qu'il est un autre moi-même. » Est-ce que vous avez cette pensée dans l'Église ? On imagine souvent l'Église comme un groupement spirituel de gens saints et parfaits, à l'image de Christ qui en est la tête. Mais l'Église du Christ tient plus de la cour des miracles que de la perfection. L'Église est un endroit béni où se côtoient tous les rachetés en Christ, comme vous et moi. Dans l'Église cohabitent des non-chrétiens en recherche de Dieu, des enfants, des adolescents qui n'ont pas encore pris la décision pour Jésus, des nouveau-nés en Christ, des chrétiens blessés et en grande souffrance, et puis des chrétiens plus mûrs. Cette hétérogénéité, cette Église mosaïque, composée de personnes de nature différente, doit pourtant vivre ensemble. Et c'est ça le miracle. S'aimer, c'est se supporter, s'accepter comme Christ nous a acceptés. Parce que si Christ n'acceptait que des gens parfaits, il n'y aurait personne dans l'Église. En priant le Père pour l'unité de l'Église, Jésus savait que l'ampleur de la tâche serait énorme. Voilà pourquoi il demande, Jean 17, 21, « Je te demande, Père, qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. » Cette prière de Jésus pour l'unité de l'Église, non seulement reçoit l'approbation du Père, Jean 11, versets 41-42, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Jésus est toujours exaucé parce qu'il prie selon la volonté du Père, parce qu'il est entièrement dans le Père et que le Père est totalement en lui. Dieu a déjà donné l'unité nécessaire à l'Église du Christ. Il a créé tous les ingrédients pour cette unité. Notre rôle, notre responsabilité n'est donc ni de créer ni d'installer l'unité dans l'Église. Elle existe déjà sur le modèle Père-Fils, mais de tout mettre en œuvre, de travailler à conserver cette unité. Et je vais conclure sur ces versets, Éphésiens 4, versets 1 à 6. Écoutez bien. « Je vous exhorte donc, moi, dit Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, et parmi tous, et en tous. C'est pas l'unité, ça ? C'est pas beau ? Frères, sœurs, nous avons chacun mission dans l'Église de conserver l'unité de l'Esprit voulu par Christ et installé par Dieu. C'est notre responsabilité. Et je vous propose d'y réfléchir, car ce sera le sujet de la prochaine prédication, dimanche 24 juillet 2022. Merci beaucoup pour votre écoute.